Vous écoutez RTL.
8h40, la revue de presse, Amandine Bégaud, et d'abord le retour d'un jeu mythique, Amandine.
Oui, 76 millions d'exemplaires vendus dans le monde, un carton dans les cours de récré. Si vous avez plus de 30 ans, vous en souvenez forcément, il s'agit du Tamagotchi, cette mini-console en forme de petit œuf qu'il fallait divertir, nourrir, laver, souvent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, afin qu'il grandisse et vive le plus longtemps possible. Un animal virtuel de poche, en quelque sorte, eh bien, il est donc de retour. C'est ce que nous annonce ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Une version revue et corrigée. Toutefois, le nouveau modèle sera plus petit. Le principe ne change pas. En revanche, la petite bête pourra désormais envoyer des messages et jouer avec d'autres Tamagotchi. On n'arrête pas de progrès. Date de sortie prévue le 25 octobre. Alors, a priori, rassurez-vous Yves, pas de raz-de-marée attendu dans les cours de récré. En tout cas, pas tout de suite, puisqu'on annonce pour l'instant 8500 exemplaires seulement. 8500 qui seront disponibles dans une seule enseigne de jouets.
Mais là, vous venez de lancer la vente. Alors, la femme du jour, elle est ce matin dans Libération.
Oui, le quotidien qui dresse le portrait de Florence Parly, la ministre des Armées, qui présente aujourd'hui les grandes orientations militaires du gouvernement. Un premier vrai test, dit ce matin le quotidien, après des débuts difficiles. On se souvient de la démission fracassante du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. C'était mi-juillet, sur fond de coupes budgétaires. Trois mois plus tard, la ministre est restée plutôt discrète, dit Libé, préférant le terrain aux caméras. Une méthode, d'ailleurs, qu'elle avait, rappelle le quotidien, adoptée à ses débuts à la SNCF. Pendant plusieurs jours. Elle avait à l'époque arpenté les ateliers de maintenance, les gares, les chantiers des nouvelles lignes. Cette fois, le job est d'autant plus compliqué pour elle qu'elle est un peu coincée entre un président qui s'est tout de suite emparé du sujet et une institution qui lui est étrangère. Et puis résume un haut fonctionnaire. Ce ministère, elle y est arrivée par hasard. Et oui, dans le premier gouvernement d'Édouard Philippe, c'est Sylvie Goulard qui avait pris ses quartiers à l'hôtel de Brienne. Quand elle démissionne, quelques jours plus tard, menacée par une affaire d'emploi fictif au Parlement européen, un plan B doit être trouvé en urgence. Florence Parly reçoit alors un message urgent, rappelé Matignon, urgent, rappelé l'Élysée. J'ai eu une nuit pour réfléchir, raconte-t-elle dans la revue Charles. J'ai trouvé ça généreux. La revue Charles qui consacre un grand dossier justement aux relations entre politiques et militaires. Entretien avec plusieurs anciens ministres, Jean-Pierre Chevènement bien sûr, mais aussi Michèle Alliot-Marie. Elle a été la première femme, il faut le rappeler, à occuper ce poste. C'était en 2002. 15 ans plus tard, elle en garde plutôt de bons souvenirs. J'adore sauter en parachute, lance-t-elle. Mais pour elle aussi, les débuts ont été difficiles. À peine nommée, elle devait accompagner le président Chirac dans le passage en revue des troupes à l'Arc de Triomphe. L'angoisse, raconte-t-elle, pour elle qui n'avait pas fait son service militaire. Elle demande alors à son compagnon, Patrick Ollier, de lui montrer comment on fait. Pendant des heures, ils répéteront dans le couloir de leur appartement, marcher, tourner, saluer, jusqu'à 1h du matin. Le lendemain, après la remise de gerbes devant la tombe du soldat inconnu, Jacques Chirac s'est penché vers moi, raconte-t-elle, et m'a chuchoté. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Michèle Alliot-Marie qui raconte également comment elle a été Premier ministre pendant une nuit. Oui, ça vous a peut-être échappé, c'était en 2005. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre sortant, l'avait appelé à trois reprises, le vendredi, le samedi et le dimanche, en lui disant « Prépare-toi, Jacques Chirac a décidé de te nommer ». Le dimanche après-midi, Mam appelle Jacques Chirac, elle lui dit « C'est d'accord ». Elle prépare même une ébauche de gouvernement. Plus de femmes que d'hommes, raconte-t-elle, une révolution avant l'heure, dit-elle avec malice. Elle se fera finalement piquer la place par Dominique de Villepin, passé le dimanche soir à l'Élysée après l'échec du référendum européen. Michèle Alliot-Marie, Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin. Tiens, justement, que font-ils aujourd'hui? Eh bien, le Figaro Magazine consacre cette semaine un grand dossier à ces politiques qui ont décidé de changer de vie. On y apprend notamment que Jean-Pierre Raffarin passe du temps avec ses petits-enfants, que Nicolas Sarkozy lui emmène depuis la rentrée le plus souvent sa fille Julia à l'école, que c'est aussi lui qui va la chercher le soir. Quant à Marion Maréchal Le Pen, elle s'apprête à suivre un MBA, un master pour compléter sa formation. La nièce de Marine Le Pen qui songe, nous dit-on, à créer une école post-bac destinée à former les cadres et les entrepreneurs de demain avec une formation complémentaire en humanité comme autrefois.
Et puis on termine avec un cocorico.
Oui, alors pas celui du Tamagotchi, je vous rassure. Non, Télérama consacre cette semaine un grand dossier aux auteurs français, à la littérature française lue à l'autre bout du monde. Le français est la deuxième langue littéraire la plus traduite au monde, loin derrière l'anglais, c'est vrai, mais devant toutes les autres. Pourquoi? Comment on l'explique? Eh bien, c'est d'abord parce que la littérature française redonne le sourire, oui. Les romans français ont la réputation de remonter le moral des troupes, c'est-à-dire dans Télérama.
Et le Salon du Livre de Francfort lui rend hommage en ce moment même. Il a été inauguré par Emmanuel Macron il y a quelques jours. C'était la revue de presse avec Amandine Bégaud.